Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on repart pour une magnifique semaine. Et quelle semaine! Semaine exceptionnelle, c'est la Coupe du Monde. Et oui, elle débute le 11 juin. L'équipe de France la semaine prochaine aux États-Unis. Mais avant, il y a le match de ce soir. Ça y est, on y est, on se projette enfin. On va s'éclater, on va se régaler pendant plus d'un mois de compétition dans Roten sans flamme qui vous lancera les matchs du soir, les matchs de la nuit, les débriefs. Ça va être génial et encore une magnifique équipe avec moi pour m'accompagner. Comme tous les jours, vous le savez, mais là, elle est renforcée. À commencer par aujourd'hui, on est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Ah bah ça va super. On est à 3 jours de la Coupe du Monde, RMC Radio officielle, une Dream Team inégalée dans Roten sans flamme, que des légendes du foot autour de nous. Alors là, franchement, c'est incroyable.
Ça tombe bien, on en a deux aujourd'hui. On est avec Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Benoît, salut Dugas, salut à tous.
Salut poulet.
Grande semaine Jérôme, parce que samedi, Osiris sera à Pernes-les-Fontaines.
Voilà, c'est pas vrai.
Mais comment tu fais pendant la Coupe du Monde?
Pernes-les-Fontaines.
Eh ben quoi, comment je fais?
Je fais
la musique et je rends les matchs.
Okay. Oh, c'est beau. Bravo. Quel artiste.
Quoi, tu arrives pas à faire deux choses en même temps, toi?
Non, j'y arrive pas, ah bon, mais c'est bien. Mais on met en avant les gens qui arrivent. Bravo, Eric. Voilà. Il y en a un qui est comme moi. Il n'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est Christophe Dugarry. Salut, Dugas.
Effectivement. Salut Benoît, salut Eric.
Salut
Jérôme.
Salut Doug. Bah, en même temps, Eric, je regarde, en même temps qu'Osiris, il y aura Qatar Suisse. Donc peut-être que les gens vont écouter le concert d'Osiris.
Oui. Ah ben, l'an dernier, il y avait 5000 personnes au festival. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait moins.
Hein. C'est incroyable. C'est fou. Ah bah impressionnant, oui, Papy Rock.
Ça rigole pas là.
Bon, j'espère que vous êtes prêts pour votre grande Coupe du Monde qui va démarrer sur RMC dans 3 jours. Mais nous, on fait monter la sauce dans Roten sans flamme dès ce soir avec un débat à 19h. Allons-nous regretter Didier Deschamps? Le dernier match du sélectionneur sur le sol français. Incroyable, Deschamps ce soir qui officiera face à l'Irlande du Nord. C'est notre dernier match de préparation avant que les Bleus s'envolent pour les États-Unis. Ce soir, 21h10 sur RMC, le débat autour de Deschamps. À partir de 19h, l'émotion du Christophe Dugarry. Ce sera à 19h.
Je vais essayer de me retenir. Vraiment, je ne garantis pas de pouvoir me retenir, mais je vais essayer, je vous garantis.
Alors, êtes-vous des consultants
courageux? On va y arriver.
Ça, on verra. On va tester votre courage à 19h30. La VAR de Roten sans flamme. Est-ce que le duo Margoton-Lizarazu a fait oublier la doublette Jean-Michel Larquet? Thierry Roland, c'est notre débat.
C'est toi qui as voulu faire ce sujet de dob là.
Autour de la table.
Qui a voulu faire ça?
On a Christophe Dugarry qui a commenté les Bleus. On a Eric Dimeco qui a également commenté l'équipe de France. Et on aura Jean-Michel Larquet, la voix mythique de l'équipe de France. On veut des avis, on veut que vous compariez comme ça les doublettes. La doublette Roland Larquet, la doublette Margoton-Lizarazu. Rappelons que la doublette actuelle de TF1 ne commentera pas les Bleus, puisque M6 est le diffuseur en clair de cette Coupe du Monde 2026. Ah, vous commencez déjà à vous débiner, quoi. Ça va être super. Non, vous soyez courageux.
Je vais être courageux,
j'ai confiance. Moi, c'est plutôt les autres qui m'inquiètent. Mais bon, il n'y a pas de copine, c'est la liberté d'expression. On dit ce qu'on pense dans Roten sans flamme. On sera aux États-Unis, ou plus précisément à la frontière mexicaine, à 18h45. Ce sera le Allo Jérôme. Nicolas Pelletier nous y attend. Il nous racontera comme c'est tendu autour de la sélection iranienne de football, les conditions drastiques pour les Iraniens pour cette Coupe du Monde. Il faudra rentrer et quitter le sol américain les jours de match. C'est quand même assez compliqué. Il va nous raconter tout ça. Et puis à 18h30, un procès, le procès de tous ceux qui trouvent que les critiques envers Kylian Mbappé sont exagérées. Il est critiqué tous les jours. Ça a continué ce week-end. On vous racontera tout donc à partir de 18h30. 18h04 sur RMC. Allez tout de suite, messieurs. Dembélé est devenu Ousmane, le grand frère.
Pascal, éducateur.
Si on joue tout seul sur le terrain, ça va pas aller. On va pas gagner les titres qu'on veut.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Les adolescents difficiles, ils connaissent.
Je pense que je me cherchais un petit peu. Je suis inversé la tendance et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage.
La saison dernière, on a mis le pognon devant avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça.
Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition.
J'aimerais bien qu'on joue un peu plus ensemble sur le terrain. On s'entend bien, je connais ses qualités, il connaît les miens.
Moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien.
Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant.
Aujourd'hui, la vérité c'est que je suis un joueur qui défend moins. et j'ai pas de problème avec ça.
J'essaye chaque match de donner le meilleur de moi-même, de montrer l'exemple.
Pascal est le grand frère.
RMC, Coupe du Monde de Football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans 3 jours.
France-Irlande du Nord ce soir 21h10 sur RMC avec le retour de plusieurs joueurs majeurs dans le 11 de Didier Deschamps, notamment le joueur préféré en ce moment de Jérôme Breton, Ousmane Dembélé, ballon d'or en titre, vainqueur des deux dernières Ligues des Champions avec le Paris Saint-Germain. Dembélé, un patron à Paris mais qui n'a pas encore assumé ce statut en bleu. Ses stats, 58 sélections en équipe de France, 7 buts marqués. Aucun but inscrit dans un tournoi majeur, Euro et Coupe du Monde confondus. Arthur Perrault est à Lille, il nous attend, il va suivre l'équipe de France ce soir. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à Arthur. Tous. Bienvenue au stade Pierre-Mauroy.
Ah merci. Le toit sera fermé d'ailleurs, parce qu'on attend de grosses averses ce soir à Lille.
Il y a eu une grosse averse en début d'après-midi. On a pris la décision de fermer ce toit. C'est pas plus mal, même s'il fera très frais. On annonce 12 petits degrés ce soir ici à Lille pour cette rencontre.
Alors Arthur, parlons d'Ousmane Dembélé. Est-ce que le staff estime qu'il a changé de dimension, déjà avec ce ballon d'or de l'an dernier, mais surtout avec cette deuxième Ligue des Champions remportée?
Oui, et on va d'abord parler du terrain où il est vu plus que jamais comme un joueur crucial, surtout s'il est amené à évoluer en numéro 10 à côté de Michael Olise et derrière Kylian Mbappé. Ce positionnement qui lui va si bien au Paris Saint-Germain, vous en avez parlé, avec une vraie force collective que l'attaquant veut aujourd'hui retrouver à tout prix en sélection.
Comme je l'ai dit en mars au groupe aussi, si on veut gagner, il va falloir qu'on joue en équipe, qu'on défende en équipe. Il n'y a que comme ça en 2026 qu'on peut aller au bout et qu'on peut, j'espère, le 20 juillet fêter sur les Champs-Élysées avec tous les Français. Je pense que tous les joueurs français ont pris l'habitude et tous les Français ont pris l'habitude que l'équipe de France fasse une grande compétition et il va falloir assumer et être prêt pour cette échéance. En tout cas, nous, on va tout faire pour aller au bout, on va être concentrés.
Voilà le vœu d'Ousmane Dembélé lors d'une interview accordée à Rotten sans flamme. Mais là, il a encore plus changé de dimension. C'est au niveau extra-sportif, en dehors du terrain, où il n'hésite plus à parler franchement, notamment au capitaine des Bleus, en lui demandant de faire davantage d'efforts défensifs. Sur la dernière photo officielle des Bleus, il est au premier rang, juste à la droite du sélectionneur, une place qui est habituellement réservée au vice-capitaine. Et il n'hésite plus aussi à intervenir sur des sujets, par exemple, de droit à l'image. Cette semaine, il a clairement exprimé son mécontentement après la séance photo organisée mardi à Clairefontaine et le fait que son image se retrouve utilisée par le site de Paris Sportif Betclic.
Merci Arthur. La une de Rotten sans flamme ce soir sur RMC. Est-ce que Dembélé doit prendre plus d'importance en équipe de France? 32-16, si vous voulez participer avec Eric Dimeco, Christophe Dugarry et Jérôme Rotten. Jérôme, est-ce qu'il doit prendre cette importance, le ballon d'or alors?
Non, mais moi je suis assez tranché sur le sujet et d'autant plus depuis quelques jours, depuis qu'on l'a fait en interview, Ousmane, et qu'il nous a révélé un petit peu les coulisses et les préparations des matchs de l'équipe de France et de Didier Deschamps, et que lui-même a dit que depuis une petite année, il y a eu un changement un petit peu de leadership sur le terrain, beaucoup plus de liberté pour lui et pour d'autres aussi, mais surtout pour lui. Donc ça veut dire que son statut, il a évolué, et ça, on le sait tous. On n'a pas besoin d'avoir été sur le terrain ou qu'on soit tous des anciens joueurs pour se rendre compte que la confiance, le talent d'Ousmane a vraiment évolué depuis une grosse année. Et donc automatiquement, ça doit être au bénéfice de l'équipe de France. Et donc, une fois que tu as dit ça, je pense que Didier Deschamps, il a ouvert un peu la porte à Ousmane pour qu'il retrouve sa liberté et surtout la confiance qu'il a dans son club au Paris Saint-Germain et qu'il la rejaillisse avec l'équipe de France. Donc c'est à lui de saisir l'opportunité. Tu sais, le mot leader, on est passé par là. Tu peux être un leader technique, un leader de vestiaire. Ça, c'est les entraîneurs qui te mettent ça en avant et qui disent voilà, c'est ça. Lui, il va prendre la responsabilité du jeu. Lui, dans le vestiaire, il est plus à même de recadrer un petit peu tout le monde. Et puis je vais avoir des relais aussi, les relais de l'entraîneur sur le terrain à travers certains joueurs. Mais une fois que tu sais ça, c'est à toi de prendre les choses en main, c'est toi qui dois prendre tes responsabilités. Et Ousmane, on est les premiers à le dire. En équipe de France, pour l'instant, c'est pas la même éclate qu'avec le Paris Saint-Germain. Mais on peut pas toujours dire que c'est de la faute du sélectionneur et de Didier Deschamps. C'est aussi lui, la pression en équipe de France. Et on sait de quoi on parle. Hein. Bon, Duga et Eric ont connu aussi ça, et bien plus que moi-même. Mais la pression, quand tu mets le maillot de l'équipe de France, t'as beau être un ballon d'or et le meilleur joueur européen ou du monde, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes coéquipiers. Donc il faut que tout le monde arrive à trouver le meilleur dispositif et la meilleure position possible pour que tu puisses t'éclater. Donc moi je crois vraiment à la réussite de l'équipe de France à travers l'épanouissement total de Dembélé, d'Olise, de Doué, plus que Mbappé, parce que Mbappé à l'arrivée, on sait, Mbappé en équipe de France, on peut pas lui reprocher pas être décisif, de pas marquer des buts, de pas faire des passes décisives. Ça, c'est la réalité. Par contre, aujourd'hui, les autres qui se greffent autour pour rendre l'équipe encore meilleure et pas être dépendant que de Kylian Mbappé, eh ben, ils doivent prendre leurs responsabilités, être encore plus réguliers et meilleurs. Donc, Didier, il est parti dans cette optique-là. J'espère que les premières réponses, on les aura vite sur les matchs de poule.
Duga, est-ce qu'il doit prendre plus d'importance de par son statut de ballon d'or déjà ?
Non, mais à un moment, je pense sincèrement que tout le monde ne va pas pouvoir prendre plus de place. C'est-à-dire que Olise, il faut qu'il prenne plus de place. Dembélé, il faut qu'il prenne plus de place. Doué, il faut qu'il prenne plus de place. Barcola, il faut qu'il ait envie. Cherki, quand il va rentrer, il va falloir qu'il prenne plus de place. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi faire preuve d'humilité, de discrétion, de travail de l'ombre. Non, mais voilà, de travail de l'ombre, de courir pour les autres, du collectif. Si chacun cherche à se mettre en avant, au bout d'un moment, il va y avoir un embouteillage, il va y avoir un gros problème, voire deux, voire trois, voire quatre problèmes. Moi, je fais confiance à l'intelligence de Dembélé. C'est un joueur que j'apprécie énormément, comme beaucoup d'entre nous. C'est un magnifique joueur. J'aime sa discrétion, son humilité, son sourire. Il a une bonne tête. J'aime ce qu'il dégage sur le terrain, son sens du collectif, sa capacité à se sacrifier pour les autres. Je pense que Dembélé, c'est aussi ça. Quand il a étoffé son jeu, il a aussi démontré qu'il était capable de défendre, d'aller au pressing, de faire un peu du travail de l'ombre, de décrocher, de se rendre disponible un peu partout à travers le terrain. Donc, moi, partir de l'idée que chacun doit en vouloir prendre le flambeau et montrer qu'il est le plus fort, au bout d'un moment, ça peut rapidement me fatiguer cette histoire-là. Voilà, moi, je pense que cette équipe de France, elle brillera par son humilité. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas aimé, bien évidemment, comme beaucoup de gens, j'imagine la déclaration de Cherki, où on dit, voilà, on n'y va pas pour gagner, on va pour écraser les autres. Ça veut rien dire, tout ça. C'est pas le foot, c'est pas le jeu collectif, c'est pas ce qu'on attend, et c'est pas ce qui fera gagner l'équipe de France. Je crois pas en tout ça. Je crois en l'humilité de chacun, à sa capacité à chacun à courir, à faire des efforts pour l'autre qui va perdre le ballon à un moment où il y aura un joueur qui sera moins bien, qu'un autre, et peut-être qu'à un moment ou un autre, s'il y a, sur ces 4-5, très très bons joueurs, très grands joueurs offensifs que l'on a, il y en a 2-3 qui arrivent à tirer le flambeau, et puis peut-être que le prochain match ce sera 2-3 autres, je sais pas. Il faut savoir se partager les tâches, il faut savoir se partager le plaisir, la technique. Si chacun se met à faire son petit jeu dans son coin, et bien ça va ressembler à quoi? Donc voilà, Dembélé, c'est à lui de à un moment ou un autre être plus présent, parce que c'est vrai qu'en équipe de France, ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est insuffisant. Voilà, pour le niveau d'un tel joueur, c'est insuffisant. Il doit être capable de faire mieux, c'est certain. De quelle manière? Je pense avec de l'humilité, avec de la précaution, avec du partage avec ses partenaires.
Si c'est arrivé
d'ailleurs. Voilà, arrivé, si c'est arrivé plein de déclarations en conférence de presse, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, c'est pas son caractère, je pense qu'il le fera pas. Mais c'est pas l'idée si chacun doit arriver à s'imposer en conférence de presse et à ramener sa fraise et à pas démontrer ce qu'il faut sur le terrain. Je n'y crois pas. Je crois que Dembélé est capable de le faire avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'intelligence. Donc voilà. Mais il faut qu'il soit bien meilleur en équipe de France. Ses stats, ce qu'il propose pour l'instant, ça doit s'améliorer. C'est certain. Mais moi j'y crois. Je crois que ce garçon est capable de monter encore d'un étage et encore capable de monter les échelons. Je pense que la confiance qu'il a pris avec ce Ballon d'Or et ses deux titres de Ligue des Champions vont être bénéfiques pour lui et pour l'équipe de France.
Eric.
Bah écoute, là, enfin, moi je suis d'accord avec Dugas dans le sens où alors cette histoire de leader là, c'est devenu je sais pas, tu peux être leader dans ton club et ne pas l'être en équipe de France parce que tu as un garçon qui a déjà prouvé, qui a déjà fait plus, tu vois, il y avait à l'époque de Dugas, il y avait des joueurs qui avaient des positions importantes dans leur club et quand ils arrivaient en équipe de France et je vais même
ouais, sauf qu'il est ballon d'or, Eric.
C'est ça la différence, bien sûr.
Oui, mais non mais oui non mais je finis. Je parle de l'histoire de cette de ce leader là. Ce leader, tu peux pas en avoir 12 non plus. Voilà. Mais par contre, tu peux avoir et c'est ce qu'on demande à Dembélé. Tu n'es plus un joueur de complément ou un joueur qui a du talent et qui apporte ce qu'il peut. Tu es ballon d'or et quand on regarde ses stats en équipe de France, c'est famélique.
C'est vrai.
Fait, je veux dire, il a jamais éclaboussé. Donnez-moi un match où Dembélé, il a roulé sur l'équipe adverse et a tiré l'équipe vers le haut sur pendant 90 minutes.
Dans les tournois majeurs,
ça n'existe pas. Okay. Voilà. Donc avant pour moi de vouloir être le leader de l'équipe de France parce que il y en a d'autres qui ont déjà fait le job et plusieurs fois déjà qu'il montre qu'il a le niveau pour être décisif en équipe de France. Ça a jamais été le cas. Ça a jamais été le cas.
Non, donc, mais Eric, le niveau, il l'a forcément quand t'es ballon d'or.
Justement, donc il est ballon d'or, qu'il soit décisif pour l'équipe de France sur cette compétition. Voilà, c'est tout. Et après tu pourras réclamer un statut, mais le statut, il faut aller se le gagner en équipe de France. Voilà, donc écoute, il arrive à la Coupe du Monde avec le statut de ballon d'or et il a de grandes chances si l'équipe de France gagne à nouveau la Coupe du Monde d'être encore ballon d'or.
Est-ce que c'est pas une histoire de style de jeu et de tactique?
Ah ben alors là oui, alors c'est peut-être bien sûr que le jeu lui correspondra moins, mais quand tu es ballon d'or, tu dois être capable aussi de t'adapter et de tirer l'équipe vers le haut ou en tout cas d'être décisif régulièrement dans une compétition comme ça. Tu n'es pas ballon d'or juste parce que tu es fort qu'avec ton équipe parce qu'elle joue pour toi ou elle a un jeu qui te convient. C'est là qu'il faut que tu montres que tu es autre chose que ballon d'or. Fait que je veux dire que le ballon d'or ne montre que tu es au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire que donc, tu dois tirer
malgré le statut de ballon d'or, il doit pas être mis dans les meilleures conditions compte tenu des autres, de ce que les autres ont fait en sélection.
Ça veut dire quoi être mis dans les meilleures conditions?
Ça veut dire jouer dans la position où t'es le meilleur.
Ça veut rien dire.
Et ça veut rien dire. La position qu'il va avoir ce soir, c'est quoi? C'est pas sa meilleure position?
C'est ça. Bah, c'est pas exactement la même qu'au Paris Saint-Germain.
Ah, donc, attendez. Donc, vous voulez carrément, peut-être, sortir.
Mais nous, on veut rien, on veut Dembélé.
Non, toi, oui, Benoît Boutron. Et peut-être que Jérôme Rotten, d'ailleurs. Pourquoi moi? Non, parce que peut-être pas toi, alors. Pas toi, c'est Benoît.
Benoît,
qui est tordu. Assume. Donc toi, tu veux sortir un joueur qui a été champion du monde et qui a souvent tiré l'équipe de France vers le haut, voire même dans certains matchs, et notamment la dernière finale de la Coupe du Monde, pour que Dembélé soit dans les meilleures conditions.
Je vous pose des questions, moi, c'est tout.
Ah, moi, Eric,
ça se gagne sur le terrain. Ça se gagne sur le terrain en équipe de France, ce privilège-là.
Ok.
Ça, c'est vrai, Eric. Moi, je réponds juste à ça, et ça veut pas dire que je pense comme Benoît. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le statut en club et même dans le football européen et mondial a changé pour Ousmane. Quand t'es ballon d'or, forcément t'es regardé comme le meilleur joueur de la planète football, c'est sûr. Donc aujourd'hui il y a un schéma qui est mis en place avec Kylian Mbappé devant, avec tous les efforts qu'on connaît de Kylian, c'est-à-dire que en gros, est-ce qu'aujourd'hui Didier Deschamps, il est capable de demander beaucoup d'efforts à Dembélé, à Doué, à Barcola ou à Olise et à dire Kylian, tu fais un peu ce que tu veux. Parce que la vérité, c'est un peu ça ce qu'on voit en équipe de France.
Bien sûr que c'est ce qui va se passer.
Mais non, parce que les caractéristiques et la mentalité et le caractère de Dembélé, de Doué, de Barcola et d'Olise, tu vois bien comment les mecs ils galopent, ils ont ça dans leur gène, dans leur façon de jouer, dans leur façon de vivre le football. Ce que je veux dire, c'est que c'est même pas quelque chose que Deschamps va être obligé d'imposer à Dembélé. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas y avoir que des Michael Jordan dans l'équipe. Il faut qu'il y ait des Scottie Pippen.
Ça, c'est sûr.
Il faut aussi des mecs qui... Mais oui, mais... Je
t'as mangé avec Luis Enrique.
Non, mais ce que je veux dire, c'est tellement naturel, ce qu'a montré Dembélé. Aujourd'hui, tu crois que Dembélé, tu vas lui dire demain matin, bon, écoute, tu fais comme Mbappé, tu attends les ballons qu'on te les donne.
Non, mais il le ferait pas.
Non, aujourd'hui, il a développé quelque chose de.
Du gars, c'est pas ce que je te dis.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Qu'est-ce qu'à l'avantage vous voudriez donner à Dembélé de plus que ce qu'il a? Il est titulaire.
Non, vous avez pas compris ma réflexion tout à l'heure. Moi, ce que je vous dis, c'est est-ce qu'il peut être aussi performant qu'au PSG, sachant que la tactique est différente? Il s'agit pas de mettre deux personnes en opposition ou de
parler d'autre chose. Benoît, il peut être aussi performant en équipe de France. Il peut être aussi performant. Moi, je dis juste que c'est pour ça que je posais cette question-là à Duga et à Eric. Du moins, c'est pas une question. C'était un constat qu'on avait en équipe de France où, en effet, quand on entend Dembélé parler et quand on a fait l'interview, c'est ce qu'il nous a dit. Il a dit pour qu'on gagne la Coupe du Monde, il va falloir qu'on court ensemble tous beaucoup. Donc, c'était un message plus ou moins aussi envoyé à Kylian Mbappé en disant, écoute, si c'est le Kylian Mbappé de certains matchs où tu as marqué des buts, nous, on n'est pas forcément que à ton service, parce que il y a des matchs où tu vas être coincé, et si tu marques pas et que nous on est bas sur le terrain, on a fait beaucoup d'efforts, peut-être qu'on va manquer de jus pour créer du jeu et faire des différences. C'est moi, je le voyais plus comme ça, en disant écoute, aujourd'hui peut-être que Kylian doit se rendre compte que eux ils font beaucoup d'efforts derrière et que lui il en fasse un peu. Moi je trouve, et c'est même pour aller le défendre, Kylian Mbappé sur le dernier match qu'on a vu contre le Brésil, j'ai trouvé qu'il était très focus sur le déclenchement du pressing, les efforts. Je l'ai trouvé très bon de ce côté-là. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Moi, j'espère que je vais le revoir dans ces conditions-là. Si c'est le cas, je pense que Dembélé, Olysée et Doué ou Barcola, ceux qui joueront, ils seront bien meilleurs.
Et on demande que ça. Damien, tiens, au 32-16 pour en débattre avec nous, Jérôme.
Salut Damien.
Bonsoir.
Salut
à l'équipe, bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. Bienvenue Damien. Écoutez, Damien, c'est quoi ton avis?
Moi, Dembélé, pour moi, il va être dans la continuité de ce qu'il a fait ces dernières saisons. En plus, il a une saison, on peut dire ce qu'il veut, qui a été rythmée par les blessures. Il va pas arriver cramoisi en cette Coupe du Monde. Je pense que Dembélé, il va... Moi, dans l'attaque que je vois depuis quelques matchs en équipe de France, j'espère que ça va se poursuivre, ça permet de beaucoup. Il n'y a pas de position fixe. Et du coup, dans cette attaque où tout le monde, en fait, va avoir l'occasion de se montrer, moi, j'attends de voir un très grand Dembélé qui prend ses responsabilités comme en club, qui va faire le pressing, et pas seulement voir un Kylian isolé qui fait pas le pressing, qui décroche. Non, il faut que ça permute devant, parce qu'on sait très bien que Kylian en neuf, s'il n'y a pas de permutation, s'il est tout seul isolé, eh ben, ça va être un problème tactique. Donc, j'aime bien, j'ai bien aimé le match malgré la défaite là contre la Côte d'Ivoire. La première mi-temps, il y avait des choses intéressantes. On n'avait pas l'équipe type, mais malgré tout, il y avait beaucoup de permutations devant. Il y avait du mouvement. On s'est créé des occasions. Là, j'attends Dembélé qui fasse la même chose qu'il fait en club, qui fasse le pressing, qui crée des différences, qui dribble et qui mette en difficulté tactique l'adversaire par son positionnement qui peut jouer partout sur le fond de l'attaque. Il peut permuter à gauche, il peut aller à droite, il peut aller dans l'axe, il peut redescendre un peu en 10. Donc il peut tout faire. Et en attaque, l'avantage qu'on a, c'est que ce soit Olysée, Cherki et Dembélé autour de Mbappé, ils sont capables de jouer partout sur le front d'attaque. Et ils sont bons et ils ont la capacité à faire des passes.
En théorie dans cette équipe, mais en tout cas les autres aussi, doués.
Mais Damien, là où je peux compléter ce que tu dis, ce qu'on disait avec Eric et Duga, étant donné que Didier Deschamps l'a reconnu aujourd'hui et qu'il y a des joueurs qui sont stratosphériques dans leur club, et là je parle de tous les Parisiens mais aussi d'Olysée, automatiquement il est obligé de leur donner un peu plus de liberté, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques mois. Donc cette liberté là, une fois que Didier Deschamps a compris ça, c'est aux joueurs de l'apprendre. Et les matchs références, il faut, du moins match référence entre guillemets, les matchs où t'es décisif comme ils le sont en club, ils doivent arriver. Parce que si on fait deux matchs de poule, les deux premiers matchs de poule, et que c'est toujours Kylian Mbappé qui te fait gagner les matchs et qui marque les buts, et que les autres ils sont un petit peu en dedans, là on pourra pas dire que c'est de la faute de Mbappé. Tu vois, c'est à eux aussi de prendre les responsabilités. On parlait du poids du maillot, c'est la vérité.
Après, faut pas se tromper.
Merci Damien d'être
non plus. Liberté, ça veut pas dire chacun fait ce qu'il veut.
Non, voilà, aussi. Bah évidemment, c'est avec intelligence. Oui, quand tu vois que ton pote est à droite,
c'est avec beaucoup. Et voilà, ça fait, c'est avec beaucoup d'efforts. Voilà, et ça, il va falloir se partager. Il va falloir se partager, communiquer aussi, être capable de se parler sur le terrain sans qu'il y en ait un qui prenne la mouche et qui le prenne mal parce qu'il a pas reçu un ballon. Exactement. Ou qu'il lève les bras ou comme, ça a pas l'air d'être ça. Ça, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Les mecs ont l'air de bien s'entendre et tout. J'espère qu'ils seront capables de se partager les efforts. Ça, c'est certain. Parce que quand ils vont, le jour où ils vont jouer contre 11, je sais pas quelle nationalité on peut mettre, mais 11 joueurs qui vont avoir l'écro et qui vont courir tous comme des lapins, il va falloir que cette équipe de France, avec ses 4 ou 5 joueurs talentueux, ou au moins 4, voilà, mais voilà, les 11 Sénégalais qui vont courir, voilà, en plus ils ont des qualités, tu vas les voir, ils vont pas faire semblant. Donc si nous, t'en as déjà 2 ou 3 qui se regardent le nombril et qui ont pas envie de faire les efforts ou pas être intelligents ou qui ont juste envie de leur liberté, excuse-moi.
Ah, mais non, mais là on est mort, non, mais ça c'est clair.
Merci
non,
mais
liberté,
et merci
non, du gars, c'est pas,
qui est avec toi en direct de Lille.
Pas,
merci Arthur.
T'as pas compris ce que je te parlais en. Bah si, je pense que t'as compris, mais là tu fais exprès.
Si, si, mais c'était pour préciser par rapport aux gens qui peuvent pas faire liberté, t'es des fois t'en.
Bien sûr. Mais c'est ça, exactement. Tu vois, c'est juste, t'es à droite, t'es dans l'axe. La preuve, c'est lui-même qui nous le disait, Dembélé avec Olise. Bah, on arrive à trouver l'alternance de ce côté-là, parce qu'Olise aime bien aussi être axial, lui retrouver le côté droit. Et je pense qu'à gauche, en effet, tu commences à le trouver. Alors, je sais pas lequel jouera titulaire. Là, pour l'instant, c'est parti pour être avec Doué. Ouais. Mais Doué, Mbappé, c'est pareil, tu vois. Donc, cette liberté-là, elle part de là.
Et après, c'est ce qu'on attend de voir ce soir, hein, ce quatuor annoncé. Bah donc, Dembélé, Olise, ouais, Doué et Kylian Mbappé.
La grande équipe d'Irlande du Nord.
Irlande du Nord, ce soir, 21h10 sur RMC. Allez, dans un instant, dans Rotten sans flamme, on va ouvrir le procès de tous ceux qui trouvent les critiques envers Mbappé exagérées. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On lance cette magnifique semaine Coupe du Monde avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h. Vous en avez l'habitude et vous allez avoir l'habitude.
Et cette musique plus aussi, il va falloir se la fader tout.
Ah oui, Shakira.
Par contre, ça, là, ça va être dur.
Bah, ah, Shakira. Bah voyons.
Ouais. Shakira, ouais. On va être obligé du gars jusqu'au bout. Hein.
C'est dans 3 jours. Hein. La RMC Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. D'ailleurs, vous connaissez le match d'ouverture.
Eh bien sûr, Mexique, Côte qui est déjà.
J'aurais été sûr, mais c'est fou, faut travailler.
Oh, ben non, c'est mais dingue, déjà, Eric. Je sais que c'est le Mexique.
Mexique quoi alors
du sud, Afrique du Sud.
Ah, mais c'est dingue de faire. Écosse.
Non, mais non. C'est l'Afrique du Sud.
Mais Mexique, Afrique du Sud.
Ah, ben voilà. Mexique,
non, c'est l'Afrique du Sud. Mexique,
mais non, c'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe.
Mexique.
Fait exprès.
Bon, rassurez-vous, on va bosser la Coupe du Monde. Mais on sera
on
prêt.
On va bosser. Ouais. C'est pas nous qui vont bosser, c'est les joueurs. Hein, parce que...
ouais, exactement, mais nous, on va regarder les matchs.
Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Contrairement à Eric et Dugas.
Bah, tous, au moins ceux du Maroc et de la France, Dugas.
Ah, voilà, d'accord.
D'accord. J'espère que tu as regardé Maroc-Norvège hier.
Même Qatar-Suisse, il faut regarder.
Qatar-Suisse, non, il y a le concert d'Osiris à Pernes-les-Fontaines.
Ah, ouais, non. Haïti, tout ça, il faut regarder tout ça.
Ah, oui, Haïti, Brésil-Haïti. Oh, on va regarder quand même.
Magnifique.
Dans un quart d'heure d'ailleurs, on ira à la frontière américano-mexicaine retrouver Nicolas Pelletier qui nous parlera de la sélection iranienne et de toute la tension qui entoure cette sélection pour la Coupe du Monde. Mais tout de suite, on y va. C'est le procès de Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein.
Le procès de Rotten sans flamme.
Encore une saison à essuyer les critiques pour Kylian Mbappé. Mbappé, la cible privilégiée des supporters du Real après la saison ratée des Madrilènes. Mbappé, la cible favorite des fans du PSG après la 2e victoire des Parisiens en Ligue des Champions. Et puis vous le savez, et vous l'avez vu ce week-end, la moindre image ou vidéo publiée sur les réseaux devient un prétexte pour le critiquer. Lui qui rêve de réaliser une grande Coupe du Monde, qui peut égaler ce soir le record de buts sous le maillot bleu, égaler Olivier Giroud s'il marque face à l'Irlande du Nord, et lui, qui en cas de grande Coupe du Monde, peut même devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde si jamais il inscrit au moins 5 buts aux États-Unis. Ce soir, on va ouvrir le procès de tous ceux qui trouvent les critiques envers Mbappé exagérées. On a deux procureurs, on a Eric Dimeco qui est là, bonsoir.
Oui, présent.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Celui qui peut défendre ceux qui critiquent Mbappé, c'est Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et on a Cédric, supporter de l'équipe de France, qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Cédric.
Bonsoir messieurs, je vous demande de la courtoisie dans ce jugement, s'il vous plaît.
Pas de problème.
Une parole sage. Merci, ça, c'est beau ça. Exactement. Ça fait plaisir. Ça c'était destiné à Jérôme Rotten, je présume.
Tout à fait. Eric, tu as la parole, tu peux y aller. Tu trouves que c'est un peu exagéré les critiques incessantes envers notre capitaine.
Quand tu fais ce métier-là, ou des métiers du sport où tu es jugé, il y a des métiers où tu es jugé tout le temps et où tu es critiqué, il n'y a pas de souci. Quand tu es critiquable, tu es critiqué. Tu fais du foot, tu dois supporter d'être critiqué. Et je crois que Kylian Mbappé, on a fait beaucoup de débats cette année sur ce qu'il se passait au Real et là-bas il a été critiqué. Là, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, critiquer sans raison, critiquer parce que, alors là, si j'ai bien compris, Benoît, tu me coupes si j'ai une bêtise. Ouais. Donc là, il est critiqué parce que il est parti du PSG. C'est ça l'histoire là, ce moment là.
L'histoire, c'est que le premier réflexe des supporters parisiens lorsque Paris a soulevé la deuxième Ligue des Champions, ça a été de ressortir la déclaration de Mbappé lorsqu'il a dit si je restais pour la Ligue des Champions, il y a longtemps que je serais parti d'ici. Voilà.
Donc, quand tu es supporter du PSG, on peut dire aujourd'hui, c'est la réalité, que Paris est passé dans une autre dimension quand Mbappé a décidé de partir. C'est-à-dire que le projet ne tournait plus autour de lui, il tournait autour d'une équipe, d'un collectif, d'un entraîneur qui a pu justement modeler cet effectif pour qu'il joue. Et donc ils sont devenus deux fois champions d'Europe. Et donc on va critiquer Mbappé parce que à un moment donné, il aura dit avec tous les antécédents qu'avait le PSG à ce moment-là que peut-être que pour gagner la Coupe d'Europe, il fallait partir. Bon, mais et puis il y a d'autres critiques là qui tombent pour rien non plus. Voilà, le problème avec Mbappé, c'est que maintenant c'est une serpillère. C'est-à-dire qu'on s'essuie les pieds dessus régulièrement. Dès que, alors tu gagnes, tu t'essuies les pieds sur lui. Tu perds, tu t'essuies les pieds sur lui. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu facile. Qu'ils ont la mémoire courte parce que ils ont été très énervés quand il est parti. Et aujourd'hui, ils sont énervés parce qu'il est parti. Alors ça, c'est la meilleure, quoi. Voilà. Donc à un moment donné, ça veut plus rien dire. Trop de critiques, tu la critiques.
Duga, toi aussi, tu trouves les critiques exagérées?
Non, mais moi général bol, voilà. Moi général bol, voilà. Mbappé, c'est la cible facile. Toujours entre, à peine il fait un truc, il part en vacances un week-end, voilà. On critique sa copine, on critique les vacances. Même quand c'est Paris qui gagne, ça le concerne absolument pas. Il trouve le moyen de lui balancer. Moi, les mecs des réseaux sociaux qui se défoulent là-dessus. Alors moi, je prends ça plus comme du chambrage, comme de la moquerie qu'autre chose. Mais sincèrement, c'est ultra fatigant. Je me suis jamais gêné depuis 20 ans pour dire ce que je pensais quand j'estimais que des mecs, voilà, ça allait trop loin, ou même moi, ou même me critiquer moi-même. Mais voilà, il faut avoir de l'autodérision aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, je sais tout ce que j'ai fait de mal, mais là, quand il n'y a rien, quoi. Au bout d'un moment, arrêtez, lâchez-le avec Mbappé, mais lâchez-le, punaise. Mais le mec qui se concentre sur l'équipe de France, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et puis voilà, il est en train de il grandit, c'est plus un bébé, c'est plus un enfant, c'est plus un gamin, et j'ai l'impression que c'est devenu le sport national, c'est de défoncer Mbappé. Même quand il n'y a pas grand-chose, ça prend des proportions indéfinissables. Il fait rien, et on trouve toujours surinterpréter ses silences, ses mots, ses petits trucs. C'est bon, laissez-le tranquille. Oh là là, moi ça me saoule. Sincèrement, c'est devenu insupportable. Moi, ça me saoule vraiment, quoi. C'est trop facile.
Parole à la défense, Maître Rotten.
Non, mais moi j'entends ce que Duga et Eric disent. Il y a des critiques qui sont pas forcément justifiées. Du moins, dès qu'il fait quelque chose, en effet, il faut parler de Kylian Mbappé. Mais c'est l'histoire de sa vie. En fait, c'est lui qui a voulu ça au départ. C'est-à-dire quand Kylian il a débuté et qu'il a été ultra performant très vite, on l'a placé tout là-haut. Il a gagné tous les titres possibles et inimaginables collectivement et individuellement. Il est arrivé au plafond de verre au bout d'un moment à Paris, mais peu importe, son départ de Paris ces deux dernières années après sa prolongation. Mais je trouve que à partir de ce moment-là, il s'est un petit peu perdu dans sa communication, où il a, et on le sait, on en parle très souvent, on fait beaucoup de débats sur Kylian Mbappé, sur sa communication, sur son attitude, son comportement, ses performances aussi. Et on est quasiment tous d'accord pour dire que sa communication a évolué, qu'elle a changé, elle est un peu plus stratégique aujourd'hui. Alors après, est-ce que c'est bien, pas bien, peu importe, mais il était rafraîchissant quand il est arrivé. et ce côté où je donne des leçons, façon de parler, en communication, je dis tout ce qui se passe sur le terrain, en dehors du terrain, parce que je suis franc du collier, je suis comme ça. Je trouve que il a perdu cette aisance-là, et trop le calcul, tu le calcules. Et au bout d'un moment, en effet, en France, et c'est pas moi qui le dis, c'est juste un constat, son image en France, elle s'est dégradée suite à son départ du Paris Saint-Germain, mais même quand elle était au PSG sur la fin. Il part au Real, en effet, avec l'équipe de France. Il s'est passé tellement de choses. Je viens pas, j'ai plus envie de venir, je suis fatigué, je suis blessé, je suis pas blessé. Je vais faire une sortie en Suède pendant que l'équipe de France elle joue. Je vais partir en vacances aller au Real avec ma copine. Et peu importe qu'il soit pris en photo ou pas, je pense qu'il y a des choses, quand tu t'appelles Kylian Mbappé, que tu dois t'empêcher de faire. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la raison de la gloire. Et lui, il se permet de les faire. Donc, automatiquement, ça ouvre la porte à beaucoup de critiques. Et encore une fois, le constat, il est que, en l'espace de 2 saisons, quand même, à Madrid, alors que c'était l'idole, tout le monde rêvait d'avoir Kylian Mbappé, même lui rêvait de jouer dans ce club. On arrive au bout de la 2e saison où il a marqué beaucoup, beaucoup de buts. Mais sauf que les gens, ils regardent même plus les buts qu'il marque. Ils en ont ras la casquette de sa communication et de son comportement. Donc les critiques, elles fusent là-dessus. Et forcément, quand tu arrives en équipe de France, et je finis là-dessus, quand le rassemblement arrive et que moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. Alors pas choqué, parce que j'en ai rien à faire. Moi je suis là juste pour voir si l'équipe de France, elle va faire des bons matchs et elle va être encore championne du monde, elle va nous ramener cette 3e étoile. Et automatiquement, ça passera par l'épanouissement aussi et les performances d'un joueur comme Kylian Mbappé, on l'a vu sur les dernières années. Et ça, une fois que tu mets le sportif de côté, tu vois juste le comportement qu'il a. Tu vois, quand il a félicité les Parisiens à l'accueil, au château, les Parisiens qui sont arrivés quelques jours après le rassemblement, tu sentais, te fais pas filmer dans ces cas-là, mais tu sentais un petit peu d'animosité, ça c'est vrai, sur sa tronche. Et après, le président qui arrive avec sa femme et avec la ministre des Sports, t'as l'impression qu'à l'accueil sur le château, sur les marches, putain, mais c'est Kylian Mbappé, il est sélectionneur, il est capitaine, il est président de la Fédé. C'est lui en premier.
Quand Monsieur Macron l'attrape et lui dit reste là, etc.
Non mais d'accord, c'est pas que lui, mais sauf qu'il en joue aussi. Donc forcément, quand t'en joues comme ça, les critiques, elles fusent derrière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu divises plus qu'autre chose. À une époque, tu rassemblais, aujourd'hui, tu divises. Et puis je parle même pas des prises de position politiques, parce que tu sais qu'une fois que tu fais ça, et c'est pas du gars qui va me dire le contraire, hein, il a grandi, évolué très souvent, et c'est un de ses meilleurs amis, Zinedine Zidane. Mais quand on voit l'icône que c'était, et pourquoi il a jamais pris position politique, c'est parce qu'il sait que quand tu prends une position comme ça, tu divises. Et le football, il est là pour rassembler, pas pour diviser.
Alors, le verdict de Cédric. Qui remporte ce procès, Cédric?
Moi, le verdict, je vais aller dans le sens de... Même si la plaidoirie de Jérôme était bonne, je vais aller dans le sens d'Éric et puis Christophe Dugarry, parce que ça a été dit, en fait, même quand il parle pas, on arrive à lui faire dire des choses. Il va dire noir, on va dire que c'est blanc. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire va quasiment se retourner contre lui. Tu as parlé de ses 2 saisons au Real Madrid. Il finit meilleur buteur sur les 2 saisons. Et ça va encore pas. Alors après, oui, je pense qu'il y a aussi des erreurs de casting autour du recrutement de Mbappé. Mais tout ce qu'il va faire en dehors du foot, sur le terrain, c'est beaucoup trop, en fait. Tu l'as dit, le foot est fait pour rassembler. C'est pas non plus fait pour défendre les joueurs en permanence. Alors c'est dû à son statut. OK. Et puis sa prise de position politique, moi, je la trouve courageuse. Alors, oui, c'est peut-être pas son rôle non plus, mais c'est peut-être un besoin qu'il a eu de le dire. C'est pour ça, moi, je trouve qu'on l'attaque vraiment trop facilement pour rien. Et comme disait très bien Éric, c'est tous ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour critiquer.
C'est un manque de courage flagrant.
Et vous l'avez même dit, vous, à un moment donné, quand vous avez fêté la victoire de Paris, les Parisiens qui passaient à l'antenne disaient « Ouais, Mbappé, vous les interrompiez tellement ça en devenait, mais c'est grotesque, caricatural, en fin de compte. » Donc, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Moi, je suis supporter de Monaco, j'étais content pour Paris qui gagne. À aucun moment, j'ai une pensée pour Mbappé. Il a fait ses choix, je m'en fous. Je suis un club français à gagner, mais on en fait beaucoup trop, beaucoup trop. Bon. Alors, il est obligé de se protéger, hein. Après, il est obligé. Jérôme a juste dit qu'au niveau de la communication, ouais, il faisait des erreurs, mais non, mais il parle quasiment pas, ou très peu, parce que justement, il sait que tout peut se retourner ou pas contre lui.
Cédric, merci donc, beaucoup, c'était très clair. Et la victoire de Christophe Dugarry et d'Éric Dimeco dans ce procès.
Et encore une victoire de plus.
21h10, France-Irlande du Nord. C'est un bon procès. Franchement, trois bonnes plaidoiries, je vous félicite tous les trois. Dans un instant, allô Jérôme, on file retrouver Nicolas Pelletier à la frontière américano-mexicaine pour parler de l'équipe nationale d'Iran. Il y a beaucoup de tensions autour de l'Iran à trois jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Mais vous inquiétez pas, après le Halo Jérôme, on se retrouve à 19h, on est là jusqu'à 20h. Et encore un bon programme, Benoît.
Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on attend au tournant Eric Dimeco, Christophe Dugarry et Jérôme Roten sur les deux prochains débats. Déjà, Roten se chauffe à 19h. Allons-nous regretter Didier Deschamps, l'émotion qui va peut-être submerger Christophe Dugarry.
Ah ouais, j'ai peur qu'il chiale.
Moi aussi, ça m'inquiète.
Ouais, ça, c'est bien.
Et surtout, on jugera votre courage à 19h30. La VAR de Roten sans flamme, est-ce que le duo Margoton-Lizarazu a fait oublier la doublette Larquet-Roland? Jean-Michel Larquet sera là pour en débattre avec nous. On a hâte d'avoir vos avis.
Le tranquille, capitaine. Vous allez le déranger pour ça.
Mais il a envie de venir donner son avis. Attends, c'est quand même la référence du commentaire sportif.
Je pense que c'est Jean-Michel qui a voulu le débattre.
Non, pas du tout. On lui a proposé.
Ouais, exactement.
Il s'est
exactement.
Pas fait désirer pour venir, hein, rassure-toi. Il a dit pas de problème.
Non, il est venu direct. Il a dit ils vont pas m'effacer ces deux-là quand même.
Allez, on y va, allô Jérôme, c'est parti.
RMC, Coupe du Monde de Football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans 3 jours.
Tension autour de l'équipe nationale d'Iran à 3 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Le contexte géopolitique est toujours aussi tendu. Hein. L'opération américano-israélienne en Iran depuis la fin du mois de février. On rappelle qu'il n'y a aucune relation diplomatique entre les États-Unis et l'Iran depuis 1980. La sélection iranienne contrainte d'établir son camp de base au Mexique et surtout d'entrer et de sortir du sol américain les jours de match. Nicolas Pelletier est à la frontière américano-mexicaine pour RMC Sport. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico.
Drôle de contexte Nico autour de toi, salut. Avec une sécurité maximale autour de cette sélection iranienne.
Oui, on a vu arriver dimanche matin à l'aéroport de Tijuana la sélection iranienne qui est venue depuis la Turquie où elle était en préparation et qui a donc atterri à Tijuana sous très forte escorte policière, impressionnante escorte policière de la Guardia Nationale mexicaine qui a emmené les joueurs iraniens dans un hôtel de Tijuana. Tijuana, pour vous décrire un petit peu la situation, on est vraiment à la frontière, au poste frontière avec les États-Unis. C'est la dernière étape avant d'atteindre les États-Unis au nord-ouest du Mexique. Et de l'autre côté, on a San Diego et puis Los Angeles. Donc voilà, c'est pour vous dresser un petit peu la carte postale. Et donc, les Iraniens sont postés dans ce camp de base, dans un grand hôtel de Tijuana, avec un stade d'entraînement juste à côté de cet hôtel, sous haute protection, avec des médias du monde entier devant l'hôtel pour observer le moindre fait et geste de la sélection iranienne. Donc voilà, c'est très particulier de voir cette sélection iranienne du côté de Tijuana, donc à quelques mètres de la frontière américaine.
Nico, je rappelle le groupe des Iraniens, la Belgique, l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, deux matchs à Los Angeles, un à Seattle. Et je le disais, donc l'obligation de rentrer et de sortir du sol américain les jours de match, un manque d'équité totale pour eux. C'est quand même hallucinant, en pleine Coupe du Monde, de voir une équipe comme ça se faire imposer des contraintes pareilles. Hein.
Alors c'est bien d'en parler parce que l'affaire n'est pas très claire. Déjà la FIFA qui est peut-être à la ramasse niveau communication depuis plusieurs jours maintenant, ne communique pas sur ce point précis. C'est l'ambassadeur iranien au Mexique qui a affirmé que l'Iran devait quitter le territoire et arriver les jours de match. Mais on a appris hier lors de nos échanges avec quelques responsables iraniens et quelques responsables aussi de l'organisation que ce n'était pas aussi clair que cela dans l'organisation et dans les volontés du gouvernement américain. Peut-être que l'Iran arrivera à J-1 comme les autres nations lors de son premier match du côté de Los Angeles. Los Angeles, c'est à 2 heures de route de Tijuana, mais l'Iran arrivera par avion du côté de Los Angeles. Donc voilà, c'est pas très clair cette histoire. La FIFA n'arrange pas la situation parce que la FIFA aurait pu communiquer et dire très simplement oui, ils seront là à J-1, mais la FIFA garde le flou complet autour de cette situation. Donc voilà, rien n'est clair autour de la situation des Iraniens. Ils ont des visas, les joueurs ont des visas, mais une partie du staff n'a pas obtenu les visas pour entrer sur le territoire américain, donc ils devront rester du côté de Tijuana. C'est aussi dans ce cas-là que l'équité n'est pas respectée pour la préparation et la compétition des Iraniens.
C'est quand même terrible sur le plan sportif, Jérôme, de voir comme ça une équipe obligée d'arriver au mieux la veille et au pire le jour J du match.
Ouais. Écoute, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Alors c'est vrai que aujourd'hui il se passe beaucoup de choses aux États-Unis et malheureusement on sent que les Iraniens sont pas les bienvenus. On parle de football, hein, donc on est les premiers à défendre ça. C'est terrible ce qui se passe chez eux.
Non, mais c'est honteux, Jérôme, c'est que soit tu les fais pas venir. Et tu dis voilà,
exactement.
Tu as le courage de dire mais voilà, pour X raison, j'en sais rien moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais si tu les gardes dans la compétition, ils doivent être traités comme les autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Exactement.
C'est honteux, c'est un scandale absolu. La FIFA, qu'est-ce qu'ils font la FIFA?
La FIFA, c'est Trump.
Mais ils ont moyen de mettre la découpe de pression quand même. Enfin, j'en sais rien, moi, mais enfin.
Tiens, d'ailleurs, et c'est intéressant d'en parler.
Je pense, avec les millions, comment ils se sont rincés, je peux te dire qu'il n'y a pas de coup de pression, là.
On a une
autre
polémique qui vient d'arriver aux États-Unis. L'un des meilleurs arbitres africains qui a été recalé par les services d'immigration à son arrivée aux États-Unis, Nico.
Ouais, Omar Abdulkadir Artan, qui est l'un des meilleurs arbitres africains, peut-être l'un des meilleurs aussi arbitres au niveau mondial, qui a été sélectionné, qui est somalien, qui a été sélectionné par, il fait partie des 52 arbitres centraux qui ont été sélectionnés pour arbitrer les 104 rencontres de la Coupe du Monde. Il a pris son vol depuis Istanbul en Turquie. Il devait rejoindre Miami. Le Miami, c'est le camp de base des arbitres pendant cette compétition. Et lors de son arrivée à Miami, il s'est fait refouler l'accès au territoire américain. Il a donc dû repartir dans l'autre sens. Il est reparti en Turquie. Ce sont des responsables de la Fédération somalienne de foot qui viennent de le communiquer auprès de l'agence France Presse. Et puis, on a contacté la FIFA qui n'a pas, comme sur les autres sujets, répondu à nos sollicitations. Alors, la Somalie, c'est un peu particulier parce que c'est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés par une interdiction de voyage aux États-Unis. Donald Trump disait fin novembre que c'est un pays pourri pour catégoriser les Somaliens. Mais voilà, c'est encore une fois une autre histoire qui vient s'ajouter à cet extra-sportif autour de la Coupe du Monde. Donc l'arbitre, on va voir si la FIFA arrive à mettre, comme le disait Christophe, un coup de pression sur le gouvernement américain, mais je pense que ça ne sera pas le cas. On verra dans les prochains jours si l'arbitre sera bien un officiel de cette Coupe du Monde ou pas du tout.
Bon, merci Nico. Ah
bah, quel coup de pression déjà, ils peuvent pas anticiper ça. Et le mec, il fait l'aller-retour, il renvoie en Turquie.
Précision importante, il avait un passeport diplomatique du gouvernement somalien pour peut-être arranger la situation au moment d'arriver à la douane, et ça n'a pas arrangé la situation.
Okay. Eric,
C'est le nouveau monde. Hein. Souvenons-nous quand même, la FIFA comme le CIO sont des instances qui supérieures entre guillemets aux États, c'est-à-dire que le discours c'était l'inclusion. On va leur explication quand ils allaient dans des pays un peu discutés, c'était nous on va amener la démocratie. On va amener les médias, on va mettre un coup de projecteur sur le pays et on va apporter du bien-être aux gens. C'était ça au départ. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas dans des pays où les joueurs, les dirigeants, les arbitres ont moins de droits qu'ailleurs, finalement. Donc, c'est devenu et tout ça parce que on se met à la botte des dirigeants et on accepte tout, alors que la FIFA, elle pourrait exiger des choses. Elle a déjà exigé des choses dans certains pays qui étaient fermés ou compliqués.
Ah bah on dit souvent que Gianni Infantino a la puissance d'un chef d'État.
Rappelez-vous quand la Coupe du Monde va en Argentine, y avait eu débat parce que c'était une dictature et le discours c'était mais justement d'aller là-bas ça va amener la démocratie, ça va changer le pays. Bon, il se trouve que ça a changé derrière, mais c'est pas pour ça que c'est mieux aujourd'hui, c'est plus ce que c'était à l'époque, mais c'est un pays qui est souvent en difficulté financière, mais ça a rien à voir. Mais tout ça pour dire que à l'époque il faisait des choses qui étaient qui était intéressante pour les pays là où ils allaient. Là,
ça dépasse le cadre du foot, des... ce que tu dis.
Voilà, ouais.
Exactement. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. On te retrouvera tout au long de la Coupe du Monde. Tu continueras ton reportage. Tu nous parleras de la ferveur à Los Angeles.
Bonne soirée à tous.
Inexistant.
Et c'est rassurant en plus. Et c'est rassurant en plus. Les prochains jeux sont à Los Angeles. Donc on va revenir ici du côté de Los Angeles et on verra.
Et ça concerne encore plus de pays. Bah voilà, magnifique. Bon. Merci Nico. Bonne soirée à toi. 18h58. Sur RMC dans un instant. Le courage de nos consultants de la Dream Team de Rotten sans flamme. Allons-nous regretter Didier Deschamps 32-16 pour en débattre avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.